Chapitre 50. Verna Amboy et Eldon Clocker, tenus à garder le secret sur les révélations de Ganesh Reinkar, ont reçu pour mission d'ôter toute trace de leur passage dans l'entrepôt. À la demande de Charlie Weatherwax, le ministre de la Justice californien, membre du complot arcadien, a adjoint à Charlie et Mustapha une force opérationnelle constituée de 56 policiers répartis dans 48 véhicules. L'opération a été montée de façon à ne pas donner l'impression qu'il s'agit d'une mission officielle. Sirène hurlante et gyrophare allumé, deux voitures de patrouille précèdent le Mercedes G550 conduit par Mustapha. Le convoi emprunte successivement la 60 vers l'ouest, la 605 en direction du sud, puis la 105 à nouveau vers l'ouest. Dans le même temps, des unités de la police routière bloquent les accès des autoroutes concernées sur leur passage afin de fluidifier la circulation, notamment aux abords de LAX, l'aéroport international de Los Angeles. Mustapha et Charlie parcourent les 83 km du trajet en 25 minutes, une expérience jubilatoire dans un secteur habituellement aussi congestionné. Le sentiment de leur propre importance est tout simplement jouissif. Un Gulfstream 5 de la sécurité intérieure les attend à l'aéroport. L'appareil, prêt à décoller, doit leur permettre de gagner Phoenix à 600 km de là, où une équipe de 4 agents arcadiens appartenant à diverses agences fédérales se tient prête à intervenir. Le steward offre à ses passagers le choix entre du bar servi avec de la purée de betterave, de l'huile de citron et des noix de cajou caramélisées, ou bien un hamburger au bacon, agrémenté d'un aioli noir présenté dans un petit pain brioché. Charlie opte pour le burger, tandis que Mustapha choisit le poisson. Et le steward leur propose un choix de 2 blancs et de 2 rouges chacun. L'escorte policière et l'accès au jet privé confirment à Charlie qu'il jouit d'une solide réputation au sein de la Révolution. Il n'a prévenu aucun de ses correspondants que Jane Hawke se trouvait désormais en compagnie de Reinkar, se contentant de préciser qu'il dispose, au sujet de Vikram, d'une piste sérieuse qu'il entend suivre personnellement. Parce qu'il a piraté les sites des nombreuses agences gouvernementales sensibles, l'informaticien figure en deuxième place derrière Jane sur la liste des ennemis de la Révolution. Charlie préserve jalousement son secret, parce qu'il n'a aucune envie de voir un autre s'attribuer le mérite de la capture de Hawke. Celui qui parviendra à l'arrêter sera promis aux plus hautes fonctions chez les techno-arcadiens et disposera de pouvoirs quasi divins. Surtout, Charlie a conscience d'avoir merdé, et l'arrestation de Jane fera oublier une faute qui lui vaudrait autrement de graves mesures disciplinaires de la part de sa hiérarchie. Le sort qu'il a fait subir à Ganesh Reinkar ne relève pas d'un acte de cruauté gratuit, bien au contraire. Il a torturé sa victime en usant de méthodes qui ont apporté la preuve de leur efficacité à l'époque de Lénine, d'Hitler, de Staline et de tous les autres grands maîtres du genre. Charlie a dépassé les bornes puisque Ganesh a eu la mauvaise idée de mourir au cours de son interrogatoire. Peu importe que le gros geek soit mort d'une attaque, d'une crise cardiaque ou de toute autre chose. Charlie compte suffisamment de rivaux au sein du mouvement arcadien pour lui reprocher d'avoir gâché une chance unique en perdant un témoin capable de fournir les coordonnées de Jane Hawke. Si le comité central décide qu'il a mal géré la situation, Charlie ne risque pas le peloton d'exécution, mais il n'est pas à l'abri d'une injection qui fera de lui un modifié. C'est hors de question. Il lui suffisait pourtant d'attendre quelques heures que le mécanisme de contrôle se mette en place pour obtenir toutes les informations dont il avait besoin. Il n'a pas perdu son temps puisqu'il sait désormais que Vikram a rejoint Jane et qu'il compte se servir de ses dons d'informaticien pour blanchir la jeune femme et dénoncer le complot. Il a également obtenu de Ganesh le nom d'Enrique de Soto, ainsi que les détails du rendez-vous organisé à Casa Grande le matin même pour récupérer un véhicule doté d'équipements bien particuliers. Ces éléments sont importants, mais cette boule de graisse de Ganesh a passé l'arme à gauche avant de lui révéler d'autres éléments cruciaux. Charlie ne sait pas qui est cet Enrique de Soto, ni quel type de véhicule celui-ci compte vendre aux fugitifs. Il ne dispose pas davantage de la liste précise des sites sensibles que Vikram a réussi à pirater lorsqu'il faisait partie du FBI, si bien qu'il ne sait pas comment l'informaticien compte s'y prendre pour dénoncer le complot arcadien. Enfin, la question principale reste en suspens. Comment Vikram et Jane comptent-ils alerter leurs concitoyens, sachant que les techno-arcadiens ont infiltré l'ensemble des médias et d'Internet? Pendant que Charlie avale son déjeuner en méditant, Mustapha Al-Yamani s'escrime sur son ordinateur dans l'espoir d'obtenir des renseignements sur le mystérieux Enrique De Soto. Tout indique que ce dernier est un trafiquant patenté, mais il ne semble pas avoir été arrêté par le passé. Il existe plusieurs Enrique De Soto dans le pays, mais l'Arizona ne compte qu'un seul Richard De Soto, antiquitaire à Nogales. Ce salaud de boursouflé aurait fini par cracher le morceau une demi-heure plus tard, se lamente Charlie. Une heure, tout au plus.
Son comportement est inexcusable, acquiesce Mustapha.
Comment aurais-je pu savoir que ce connard avait le cœur fragile, ou je ne sais quoi d'autre?
Il aurait pu avoir l'honnêteté de t'en parler, insiste Mustapha.
Charlie achève de manger son hamburger en silence avant de demander.
À ton avis, Mustapha, quel est le principal enseignement que t'ont transmis tes parents?
Tu sais, Charles, je les ai reniés depuis longtemps. J'ai tout fait pour oublier jusqu'à leur existence, alors ne me demande pas de t'en parler.
Personnellement, mes parents m'ont appris que le mensonge et la duplicité payent toujours. Ils ont accédé au bonheur et à la richesse avant de partir en retraite très tôt en détournant des fonds publics.
La fourchette de Mustapha, sur laquelle est posé un dernier morceau de bar agrémenté d'une noix de cajou caramélisée, se fige au niveau de sa bouche.
« Et tu leur en veux pour ça ?»«
Non, pas du tout. Ce qui m'énerve, c'est qu'ils m'ont privé de toutes sortes de trucs qui auraient rendu mon enfance et mon adolescence plus agréables, au prétexte qu'il manquait d'argent, alors qu'ils détournaient des sommes énormes. Et je suis prêt à parier qu'ils auront tout claqué le jour de leur mort, sans rien me laisser. »
Mustapha achève de mâcher sa dernière bouchée de poisson.
« Je comprends parfaitement que tu leur en veuilles de leur égoïsme. »«
Ça me semble normal, » réagit Charlie.
Plusieurs kilomètres en contrebas, le désert de Mojave est aussi sec que le cœur de parents incapables de se sacrifier pour leurs enfants.
Au cours de l'interrogatoire, poursuit Charlie, ce petit connard obèse n'arrêtait pas de me seriner que jamais il ne trahirait son cousin.
Pourquoi ?
Il estimait que la famille était sacrée. Il le répétait comme un mantra pour oublier ses souffrances.
C'est bizarre. Si tu veux mon avis, ce type n'était pas normal.
J'ai pensé comme toi sur le moment, ce qui ne l'a pas empêché de craquer.
Je peux te poser une question qui n'a rien à voir avec tout ça?
Oui.
Comme parfum, tu choisirais plutôt Code d'Armani ou bien Red de Perry Ellis?
Ni l'un ni l'autre.
C'est bien ce que je pensais.
Je te conseille de porter bleu de Chanel, mais avec discrétion.